Direct en jeu de Radio Insolite, c'est parti pour la semaine du tourisme et je remercie Gilles, le directeur de Filaposte, d'avoir été le premier à lancer le tourisme en timbre. Et puis là, c'est un peu inattendu. Vous savez que vendredi dernier, j'avais proposé à Alexandre Tchebanov de faire une interview sur tous les pays qu'il a pratiqués, en particulier la Bulgarie, et le fait de nous parler un peu de ça. Et puis, il me dit, Alain, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est connu dans le monde entier, il s'appelle Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
C'est ça, t'es connu dans le monde entier. Hein.
Oh. Disons, dans le monde entier, surtout dans mon quartier, et puis de temps en temps un peu ailleurs.
Oui, mais il y a juste un truc. Il paraît que... Alors, tu t'appelles Marc, mais tu as un nom qui fait que tu rayonnes dans le monde entier.
Alors, j'ai un nom très commun, puisque je m'appelle Durand.
Oui, Durand.
Ma famille maternelle n'est pas beaucoup moins commune, puisque je suis l'arrière-petit-neveu des frères Lumière. On présente plus.
Excuse-moi, l'arrière-petit-neveu des frères quoi ?
Des frères Lumière, c'est les gens.
C'est qui ces gens-là ?
Ce sont des gens qui ont inventé diverses petites choses pour nous occuper nos soirées, nos après-midi, dont un truc qui s'appelle le cinéma. Enfin, c'est des petites images qui bougent sur un écran.
Attends, le cinéma, c'est la vie d'avant, ça ?
Hein ?
C'est la vie d'avant, le cinéma ?
Oh, c'est la vie d'avant, c'est la vie que l'on a à l'heure actuelle, entre parenthèses, mais qui va reprendre, bien sûr. Cette vie que nous avons aujourd'hui est une vie entre parenthèses. Et ce n'est pas la première fois que cette parenthèse existe dans l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est une parenthèse de plus en plus exceptionnelle depuis le XXe siècle. Avant, c'était très commun. Tous les 15 à 20 ans, on avait l'épidémie.
Tout à fait.
Voilà, donc mon nom est Marc Durand, donc arrière-petit-neveu des frères Lumière, et j'ai la chance professionnellement d'avoir pu lier à la fois ma vie familiale et ma vie professionnelle, puisque parallèlement donc, à cette naissance, si on peut dire, je suis chargé d'études documentaires aux Archives nationales à Paris, et je suis historien des sciences et en particulier de la photographie et de la cinématographie. Donc j'ai cette chance inouïe de pouvoir lier mon travail et ma vie familiale. Et de temps en temps de parler à des gens comme toi intéressés par ce sujet qui bien sûr berce nos vies depuis toujours.
Alors, je vais te ramener au siècle précédent, au millénaire précédent, est-ce que tu me le permets ?
Oui.
Parce qu'on est tous nés au siècle précédent, au millénaire précédent. Quand tu nais, tu t'intègres tout de suite d'entrée, comme dire, ce poids, c'est énorme d'être dans cette famille-là.
Alors, je vais répondre très clairement à tout ça. Je vais essayer d'être très, très clair.
Oula, attention.
Dans notre famille, nous avons été protégés. Parce que justement, on ne nous en a jamais fait le poids. Et j'ai souvenir, vers 7 ans, je suis allé voir pour la première fois un vrai film qui était La Grande Vadrouille.
Ouais, ah.
Avant, j'ai vu des films de Walt Disney, mais qui étaient des dessins animés. Et là, mon premier souvenir cinématographique, c'est La Grande Vadrouille.
Un monument.
Je vois encore les images, non pas parce qu'on les voit tous les ans, mais vraiment à ce moment-là, et à la fin du film, ma grand-mère et ma mère m'ont dit, tu vois Marc, le monsieur qui a inventé le cinéma, c'est Tonton Louis. Et là, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose de pas banal quand même.
C'est joliment dit.
La réalité, on m'a dit, tu sais Marc, nous on n'a rien inventé, voilà, c'est comme ça. Donc, je n'ai jamais eu le poids de ça dans mon enfance ou mon adolescence. De temps en temps, ça revenait parce qu'il y avait un film, il y avait des images. Un jour, par exemple, je vois un film avec ma grand-mère, ou plutôt une petite fille, qui apprend à marcher. Ce film s'appelle « Le premier pas de bébé ». C'est un film tourné par Louis Lumière en 1896. Et je demande à ma grand-mère, Madeleine, mamie, qui sait cette petite fille sur qui
oh
sait cette
Dieu.
Petite fille Et elle me répond, c'est moi.
Oh mon Dieu.
Ouais. Donc, ce sont des... comme on dit, concurrence, pour employer un mot qui ne veut rien dire. Et voilà, donc c'était toujours un. Ça a été ce genre de souvenir pendant mon enfance, mon adolescence. Et c'est vraiment, et c'est très tardivement, et peut-être hélas, qu'à partir de l'âge de 30 ans, donc il y a 30 ans aujourd'hui, où je me suis vraiment intéressé à l'histoire de cette famille, de ma famille, mais aussi de cette famille, non plus en tant que membre de cette famille, mais en tant que d'un point de vue professionnel. Donc j'ai pu avoir, j'essaye toujours d'avoir un regard objectif sur cette famille avec ce qu'il y a de bien ou de pas bien et de pas bien du tout. Parce que comme dans toute famille, voilà, il y a des choses qui se sont très bien passées et d'autres qui sont peut-être plus obscures, surtout peut-être chez les Lumières de temps en temps. Voilà, donc mon travail a été...
Oh, bravo. Ça y est, je viens de comprendre le jeu de mots. Bravo.
Non mais... Très, très, très fort. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je dis quelques âneries. Il faut toujours réveiller l'auditeur de temps en temps.
Toujours, toujours. Faut pas oublier que c'est le temps de concentration qui peut être de 7 minutes. D'accord, tu disais, donc vas-y, continue.
Voilà. Donc, au cours de ces 25 dernières années, j'ai fait un travail sur l'histoire de la photographie, de ses origines. Vers les années 1910, 1920, aussi je vais boire un coup.
Attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit que tu n'étais pas né en 1910, 1920.
Non, je suis né en 1960, c'est déjà pas mal.
Bah alors comment tu me dis que tu as pu faire un travail?
Dans le cadre de mon travail, donc je suis, disons, pour être, je suis archiviste. Voilà, bon, je pense que c'est un mot qu'on comprend. Et dans le cadre de ce travail, je travaille dans des archives très particulières, qui sont des archives notariales. Je travaille au minutier central des notaires de Paris,
D'accord.
qui est un service des archives nationales.
Mmh.
Donc, c'est chez nos notaires, il y a la vie intime et privée de tout le monde, parce que tout le monde un jour est allé chez un notaire, que ce soit pour régler une succession, pour un mariage, un contrat de mariage, pour acheter
Un appartement.
En vente une maison, pour créer une société, pour faire un prêt. Voilà, bon, il est exceptionnel que quelqu'un n'aille jamais chez un notaire. Et en plus, quand on est un commerçant, on va très souvent chez son notaire. À l'heure actuelle, on y va beaucoup moins souvent, mais au 19e siècle et tout au long du 20e siècle, les gens qui avaient une activité professionnelle dans un domaine commercial y allaient par obligation.
Une question, tu me permets une question, Marc? Puisque tu travailles dans les archives, en quoi c'est important de garder des archives?
Alors, on va essayer de faire un très court de droit. On ne garde pas les archives par plaisir. C'est un plaisir, mais on les garde surtout pour faire valoir ses droits. C'est ça donc c'est pas l'intérêt des archives, c'est ça l'important. On a une obligation légale de par la loi, de par nos lois. Je rappelle que la France est un pays de droit écrit. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas en dictature. Et les archives, c'est ce qui te permet à chacun d'entre nous de faire valoir ses droits. Par exemple, quand tu as ton acte de naissance et que tu es né en France, eh bien tu es français. Ça, c'est un droit. Quand tu es marié et que tu te maries à la mairie, eh bien, tu as un contrat qui se crée automatiquement. Nos relations interhumaines, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, elles ne sont faites que par des droits. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller désinguer de quelqu'un ou de rentrer chez quelqu'un en lui disant, bah, écoutez, moi, ici, c'est chez moi. C'est un peu ce qu'on a fait entre 1940 et 1944, avec, par exemple, la spoliation des Juifs. On est allé parce qu'on a changé ces lois. Alors, comme je dis toujours, tout n'est que décision humaine, mais à un certain moment, il faut que ces décisions soient applicables et appliquées. Elles sont applicables par des textes de loi, par des
D'accord.
publications officielles, par l'Assemblée nationale. C'est tout un ensemble. Et les archives en France, pas que nationales, mais dans chaque département, conservent des documents qui in fine, ils sont là pour faire valoir les droits de chacun.
D'accord.
Et après, on utilise ces mêmes documents qui ont plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années,
voilà,
pour dire l'histoire. Moi, je dis toujours, je prends toujours comme exemple, je suis un peu un semeur, donc je sème des graines par terre et les autres viennent ramasser le blé et font du pain. Moi, mon métier, c'est de mettre à disposition des documents pour permettre aux autres, à d'autres personnes, de pouvoir les utiliser pour, dans ce cadre précis, pour faire l'histoire ou écrire l'histoire.
Hein, tu m'as très très bien répondu, parce qu'en fait c'est vrai que moi dans ma notion d'archive, je voyais des archives qui dataient donc de 1800, etc., etc. Alors que là tu m'as dit, dans la vie de tous les jours, on a besoin de garder des archives pour tracer et avoir des documents. Mais est-ce que les archives, c'est un rapport avec l'histoire ? Si on prend comme dire, les premiers films de ta famille, donc la sortie des frères...
un rapport avec l'histoire, je vais te donner un exemple. Alors, sur lequel je suis en train de travailler, ce n'est pas directement, c'est pas lié à la famille des Frères Lumière, c'est lié à une des premières artistes de cinéma qui s'appelait Musidora.
Oui.
En deux mots, c'est la créatrice d'un personnage qui a donné le mot vampe. La vampe, c'est Musidora. Elle avait un corps magnifique. Elle s'habillait avec un juste au corps noir, y compris la tête, le crâne. Vous voyez son visage, heureusement. Et donc, elle a créé des films. Et donc, ce spectacle, ces films ont eu un énorme succès. C'était une star absolument gigantesque. À l'heure actuelle, il y a donc eu des colloques. Il va y avoir un livre qui va sortir sur elle. Et moi, j'ai retrouvé son contrat de mariage devant notaire. Et dans ce contrat de mariage, on n'explique pas, évidemment, comment elle tournait ses films. Mais par contre, dans ce contrat de mariage, il y a le détail des biens qu'elle amène dans ce mariage. Donc, il y a l'argent qu'elle amène. En réalité, elle a plutôt des dettes. Et surtout, elle amène beaucoup d'objets, de vêtements et d'objets mobiliers, dont, par exemple, il y a une cape de torero, une tenue de espagnol. Et Musidora a, entre autres, dans les années en 1920 ou 1921, je ne sais plus trop, a tourné un film. Et au Pays Basque aussi, elle tournait dans ces régions, dans lequel il y a un torero qui lui offre sa cape. Donc voilà, les archives, ça permet d'avoir un autre regard, un autre biais. Des gens, des personnalités. On peut retrouver la personnalité des gens, par exemple, dans leur mobilier. Autour d'elle, du mobilier chinois, beaucoup d'œuvres d'art, la guiterie. Voilà. Donc, cet ensemble, c'est très utile parce que, voilà, on va pas dans un acte notarié raconter la vie. C'est pas une biographie, c'est pas un signal comme ce que je fais à l'heure actuelle, d'un point de vue archive, d'un point de vue d'archive. Bon, c'est un témoignage, mais il ne vaut que par rapport au. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui écrit un document derrière sa vanité, une relation, un engagement. Est-ce que c'est clair ce que je peux signaler.
Tout à fait. Oui, alors pour information, combien tu dois voir, que j'ai réagi un tout petit peu, puisque je rappelle qu'on est aussi en vidéo. Simplement, c'est vrai que ta voix est parfois entrecoupée. Il y a des petites coupures de son et tout, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe. Au premier abord, ça a l'air de tourner. Juste une question. Quand j'ai eu le plaisir de rencontrer l'an dernier à l'Institut Lumière Max Lefranc Lumière, lui m'a expliqué qu'en fait, il trouvait que c'était important de mettre la particule lumière dans son nom, parce que ça permettait de faire perdurer l'image donc de ces, je ne sais pas si on peut appeler ces créateurs, ces innovateurs. Pour moi, de toute façon, ça représente une révolution énorme, l'apparition du cinéma. Toi, tu as gardé Marc Durand.
Bon, justement, ça rentre ce que je vais d'archivistique aussi. Les frères Lumière, le père des frères Lumière, s'appelle Antoine, avec son épouse, qui s'appelle Joséphine. Attention, là, il va être attentif. Ils ont eu 6 enfants.
Exact.
6 enfants. Mmh. D'accord ? Chacun de ces enfants ont eu des filles et des garçons. D'accord ? Donc, les petits-enfants d'Antoine Lumière, les enfants d'Auguste Lumière, de Louis Lumière, de Jeanne Lumière, de Juliette Lumière, de France Lumière et de Édouard Lumière, chacun de ces 6 personnes ont eu ou n'ont pas eu d'enfants.
Mmh.
D'accord ? Ah, il n'a pas eu d'enfants. Il est mort à la guerre en 1917, il n'avait pas d'enfants. Les autres, ils ont eu des garçons et des filles. Il n'y a que les filles qui ont eu des enfants. Que les filles, d'accord ? Les filles se sont mariées, mais les garçons, ils se sont mariés aussi, mais ils n'ont pas eu d'enfants.
Ah, d'accord.
Moi, je suis le descendant de Jeanne Lumière, qui était la sœur des frères Lumière.
Mmh.
Jeanne est mariée avec un monsieur qui s'appelait René Quelin.
D'accord, qui s'appelait, René... attends, ça a coupé, qui s'appelait René, comment ?
René Keller.
René Keller, d'accord.
René Keller, bon. Ils ont eu un fils et une fille. Leur fils, Marcel, n'a pas eu d'enfant. Madeleine, leur fille, a eu 3 filles. Et je suis le descendant d'une de ces 3 filles, qui s'appelait Lucette. Et ma mère s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Durand, donc je m'appelle Durand.
Non, mais excuse-moi Marc, mais c'est une malédiction de la famille ou quoi là ? Il n'y a que les filles qui ont eu des enfants.
Pour continuer, Henri Auguste Lumière, le fils d'Auguste Lumière, il n'a pas eu d'enfant biologique. Mm. Il y a une branche d'Auguste Lumière, ce sont des enfants adoptés.
D'accord.
D'accord. Mm. Et de l'autre côté, Louis Lumière, lui, il a eu 2 filles, qui s'appelaient Suzanne et Yvonne.
D'accord.
Les enfants qui sont les filles de Louis Lumière. D'accord ? Louis Lumière. Donc Auguste Lumière, il n'a pas d'enfants. Il n'a pas eu d'enfants. Louis Lumière, il a des enfants, il a des filles. Et Auguste Lumière, il n'a pas d'enfants puisqu'il meurt. Et les 3 autres sœurs, elles ont des enfants, mais elles changent de nom puisqu'elles se marient. D'accord ? Chacune d'elles se marie. Donc, les sœurs des frères Lumière, les filles Louis Lumière, Yvonne et Suzanne, se marient toutes les deux. Okay ? Donc, il y en a une, Suzanne, qui se marie avec un monsieur Trarieux, et l'autre, qui s'appelle Yvonne, elle se marie avec un monsieur qui s'appelle Lefranc. Que se passe-t-il après ? Donc, ils ont des enfants. À un moment, quand Louis Lumière meurt, va mourir, le nom va s'éteindre. Le nom Lumière va s'éteindre. Mm-hmm. C'est le terme exact à employer.
D'accord.
Donc, ce nom ne s'éteigne pas, Lumière. On a la possibilité, des petits-enfants, mm-hmm, ou des enfants, de ce que l'on appelle relever le nom.
D'accord.
On relève. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les petits-enfants de Louis Lumière se sont appelés Trarieux Lumière, pour les descendants et les enfants de Suzanne Lumière, et les enfants de Yvonne Lumière se sont appelés Lefranc Lumière. Et Max, c'est donc le petit-fils de Louis Lumière et le fils de sa fille cadette, qui s'appelait Yvonne. Est-ce que c'est à peu près clair tout ça ?
Si. Alors tiens, à rappeler que quand vous allez à l'Institut Lumière, à la Villa Lumière à Lyon, vous trouvez, je crois que c'est au premier étage, un organigramme, vous trouvez la généalogie. Et moi, je suis un peu fasciné par ce genre de choses. Et on l'a retrouvé aussi quand j'ai visité le Palais Lumière à Évian, avec l'exposition qui avait eu lieu à la Confluence, mais qui est aujourd'hui malheureusement toujours à Évian, mais qui est fermé et tout. Quand tu vas au cinéma, à chaque fois, t'as le cœur qui bat ?
J'ai plus le cœur qui bat pour les films que pour ce que je vois de temps en temps. Alors, évidemment, à chaque fois, je me dis, c'est quand même grâce à, comme on dit dans notre famille, c'est grâce à Tonton Louis et Tonton Gut qu'on est là. Mais je tiens vraiment à dire, et je pense que Max et aussi son petit frère Lumière, il y a un autre cousin... ce qui est très important, c'est de voir que le cinéma et c'est une invention également collective.
Ouais.
Cette lumière n'est pas arrivée comme ça, comme une fleur ou un feu sur la soupe, si j'ose dire, en disant, bah tiens, aujourd'hui, je vais inventer. Ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. En réalité, son petit-fils, qui s'appelait Maurice, Prarieux-Lumière, me disait, mon grand-père est un bricoleur de génie. Louis Lumière, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait tout ce qui avait été inventé avant, et il faisait son petit plat, sa petite sauce, et il te montrait un truc qui, une fois que c'était créé, il y avait, si tu veux, plus rien d'autre à refaire. Le cinématographe, la boîte dans laquelle on tourne les images, c'est quelque chose qui mécaniquement n'a pas évolué à part que on a électrifié l'entraînement de la manivelle, si on peut dire. Il n'y avait plus de manivelle, ça tournait avec à l'électricité. C'est la seule chose qui est changée, mais la mécanique en elle-même dans une caméra de cinéma, encore pour faire du cinéma avec une pellicule, pas aujourd'hui les trucs qu'on a avec de la vidéo comme on fait en ce moment.
Il est en train de me piquer ma prochaine question, zut. Vas-y.
Voilà, donc Louis Lumière, quand il a inventé le cinéma, le cinématographe, l'objet était fini, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'autre à inventer, et c'est la particularité très souvent des inventions de Louis Lumière qui invente quelque chose, mais on arrive au bout d'une invention. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir la possibilité d'améliorer le système. Ce qu'il va falloir, inventer un autre système pour que d'autres choses évoluent. D'accord ? Louis Lumière, il a inventé le cinéma, il a inventé beaucoup de choses, mais entre autres, il a inventé, et le disait lui-même, c'est l'invention qui lui a le plus coûté, mais aussi c'était son invention pour laquelle il tenait le plus, c'est la plaque autochrome.
Ouais, c'est important, la photo. Ouais.
Très important.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, hein. C'est assez important.
Oui, ouais. Oui, la plaque autochrome, pour un coup. La plaque autochrome, c'est une photographie des couleurs. La particularité de cette plaque autochrome qui a été commercialisée en 1907, Louis Lumière a travaillé une quinzaine d'années sur ce projet de photographie des couleurs. En 1903, c'était à peu près inventé et commercialisé en 1907 parce qu'il a fallu inventer le processus de fabrication qui était compliqué. Il a fallu entre autres fabriquer les machines. D'accord. Donc ça a pris presque 4 ans pour les fabriquer par millions, ces plaques. Donc la photographie des couleurs de Louis Lumière, elle a la particularité que c'est le seul moyen que l'on ait, à son époque, en 1904-1905, de photographier les gens. Parce qu'avant, il y avait d'autres manières de photographier les couleurs, mais ces photographies ne permettaient pas de photographier des gens, parce qu'en réalité, il fallait faire 3 photos différentes, avec 3 tonalités de couleurs différentes. On les projetait, on les surexposait, et les couleurs se mélangeaient, et ça donnait les couleurs. Ça, déjà, dès 1864, il y a Charles Coron ou Charles Cros, qui ont inventé un système de photographie. Et on ne pouvait photographier que des choses inertes, des paysages, une table avec de la vaisselle, comme ça. Louis Lumière a inventé la photographie des gens. Et ça, c'est très, très, très important, c'est vraiment à noter et à rappeler au public que Louis Lumière n'a pas inventé que le cinéma. Ouais. Et bien d'autres.
C'est important. Dis-moi, pour quasiment conclure, moi j'ai une question à te poser qui est un peu délicate.
Ah.
On sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui heureusement, il y a l'argentique, c'est-à-dire la pellicule qui revient dans le domaine de la photo. Mais malgré tout, aujourd'hui, on sait qu'on peut réaliser un film avec son téléphone portable. Aïe. Aïe.
Alors, quelle est la question ? quoi.
Alors, ça peut être aussi bien un téléphone portable. On peut même réaliser des vidéos avec un appareil photo.
On réalise des vidéos, on
Ouais.
n'utilise pas forcément des films.
Est-ce que... Pardon? Ah, d'accord. Attention, tu fais une différence entre la vidéo et le film.
Ben, il me semble, oui, que c'est pas du tout à fait la même manière. Le film est d'abord, avant toute chose, le film, montage de suite de vue. Une vidéo, ce que l'on fait à l'heure actuelle, là, je ne sais pas si après tu vas couper les temps morts, ce qui est possible de le faire, et ce qui est fait dans la plupart des cas d'ailleurs,
Jamais.
heureusement, parce que on s'endormirait au bout de 5 minutes.
Sur Directeur Gêne Radio Insolite, on a coupé une seule fois, et ça c'est resté. On ne coupe jamais.
Bon,
Jamais.
alors d'accord.
C'est une
Donc, on
question de
va pouvoir.
principe.
Bravo.
C'est
Donc.
important parce que sinon, c'est là où on est authentique, c'est là où on est naturel, c'est là où on est sincère. J'ai fait une émission samedi et puis hier j'ai appris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait une interview, donc j'étais très content pour la personne concernée. Sauf que je peux dire que ça s'entend les coupures parce qu'elle a fait une interview de 3 minutes, nous on a fait une émission de 20 minutes, mais les 3 minutes, c'est pas que c'est mal fait, c'est simplement comme avec une coupure, c'est très très compliqué pour être pile poil. Mais voilà, malgré tout, bon, je reviens donc, une vidéo c'est une vidéo, un film c'est un film, il faut faire un montage.
Oui, un film, c'est quand même une œuvre de fiction. C'est de penser, c'est autre chose. Après, la manière de regarder l'image, moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans une salle de cinéma, il y a souvent une projection d'un film numérique. J'ai la chance de pouvoir être allé à Paris, à la Cinémathèque. Oui, je voulais dire
Je
quelque
peux.
chose.
Alors, pour info, dans l'exposition, si vous avez l'occasion d'aller à Évian, ou si, parce qu'elle va tourner l'exposition sur le cinéma inventé, comme elle l'appelle, on a des grosses bobines des Frères Lumière, donc des bobines assez conséquentes. Après, on a aussi, comment dire, un disque dur, et on a un DVD, et même une clé USB. Et là, on voit l'évolution du stockage, entre guillemets, avec plein de choses assez originales. Donc c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis là. Vas-y.
C'est absolument. Enfin, je crois que, en effet, la manière de stocker l'image, l'information, va être de plus en plus révolutionnaire.
Ben,
Là,
complètement.
par exemple, bon, ça fait une digression de plus. Hier, j'ai vu un reportage sur lequel on expliquait que dans les prochaines années, on allait pouvoir contenir des informations dans qui existe depuis 4 milliards d'années dans un brin d'ADN, d'acide ribonucléique, et que tout ce qui est aux archives nationales, ça va tenir dans à peine une petite fiole de céramphie.
Excuse-moi, c'est l'image qui me fait sourire.
Voilà. Donc, bien sûr, mais je crois que tous les gens. Il y a un moment de purgatoire à passer. On sait aujourd'hui que de grands artistes, de grands chanteurs, je pense à Gilbert Bécaud, à Léo Ferré, à Barbara, des gens comme ça, ils sont dans une sorte de purgatoire. N'ont pas eu la chance d'avoir Jennifer et il y a tout où il y a un moment, en effet, où passe dans l'ombre. Le cinéma a eu ce moment-là depuis une vingtaine d'années avec ces films numériques. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de doute que les gens vont retourner petit à petit à la salle et même vont demander des films argentins. Parce que le jour où les gens, où des jeunes gens qui vont aller au cinéma et vont voir une projection de films argentins avec la luminosité de l'image. Moi, bon, j'ai des problèmes de vue et aiguille. Bon, et ces films numériques n'ont pas du tout la même luminosité qu'un film argentique qui est projeté. Et bien évidemment, il faut avoir un projectionniste. C'est un tout autre métier d'être projectionniste et de projeter un film numérique ou un film argentique avec des bandes, avec
Complètement.
des bois. Enfin, tout ce qui est le métier à la fois d'opérateurs et de producteurs. Donc, je pense qu'on va tourner petit à petit à des films. Peut-être que dans les 20 années, je ne crois pas du tout que le cinéma va mourir. Je crois qu'il va y avoir d'autres super inventions qui vont permettre ce septième art. Comme le dit Thierry Frémaux, souvent, c'est le seul art où on sait à quel moment il a commencé. On ne sait pas quand la musique, la danse, le théâtre, voilà, la peinture, un peu à la trouille, il y avait sûrement des peu avant. Voilà, le cinématographe, le cinéma, on sait, ça a commencé le 22 mars 1895, le 19 mars pour le tournage et le 22 mars à Paris à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale où Louis et Auguste ont manipulé leur moulin à images, comme je dis souvent, dans la projection du premier film publicitaire, d'ailleurs, qui était La sortie des usines minières, qui est un simple film publicitaire en fait. Ils ont fait filmer la sortie de leur usine en disant pas bête.
Je vous rappelle quand même, je suis en train de sourire, donc, et je vous rappelle quand même que quand j'étais à Cannes, il y a 2 ans, il y a eu le gros débat avec Agathe Récanière qui me disait non, non, pas du tout. Le cinéma a été créé à La Ciotat dans le film L'Hélène Théâtre, et c'est l'entrée du train dans la gare. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais quelqu'un de Lyon qui était juste à côté de moi, et ça a été un débat qui a été passionnant. Voilà. Qui a été le premier? That is the question, comme on dit.
Le drame absolu est que moi je suis très attaché à la Ciotat et aux gens qui y travaillent.
Oh ben.
Donc le problème c'est qu'ils veulent absolument inventer, ce qui n'est pas le cas. Donc plutôt que de dire des choses qui sont fausses, je dis depuis 25 ans, je dis plutôt et mettez en avant. Parce que voilà. Et la seconde ville dans laquelle Louis Lumière est tourné, à La Ciotat.
Exact.
Et le premier film tourné en 1895, il y a entre autres la mer, évidemment, ça ne va pas être tourné à Lyon, qui aujourd'hui est quand même un des films mythiques, et qui en plus, bon, j'ai la chance de participer à l'organisation d'une exposition à Paris au musée de la Marine, qui s'appelle La mer et le cinéma. Mmh. Dans les années en 2022, où donc c'est une exposition sur la mer et donc le cinéma. Et le premier film, il a été quand même tourné, il fait partie des 10 premiers films tournés par Louis. Donc, mes amis de La Ciotat fait énormément de choses, ouais, depuis toujours pour les Lumières.
Exactement.
Donc, c'est aussi une manière de faire venir le public, les gens, dans cette ville qui a énormément souffert d'un point économique et social au moment de la fermeture des chantiers. Maintenant, il y a d'autres choses qui se sont ouvertes depuis plusieurs années. Maintenant, c'est en plus on est vers les ports, la construction de bateaux de plaisance.
Tout à fait.
Et c'était industrieuse, est devenue petit à petit une ville qui a été tournée, qui se tourne vers le tourisme. Et vers l'histoire des Lumières. C'est un fonds de commerce pour eux qui est extrêmement important. Et à La Ciotat, il y a quand même la première salle de cinéma qui reste encore debout.
L'Eden Théâtre, exactement.
Qui est la seule salle qui reste vraiment en l'état.
Ça, c'est vrai.
Donc, pourtant, La Ciotat, c'est l'autre ville du cinéma. Ouais. L'autre.
Écoute, moi je vais te remercier, c'était un peu inattendu, parce que et c'était même plus qu'agréable. Et puis alors, la marine et le cinéma, je sens que ça va être un sujet qu'on va aborder dans les mois à venir, parce que là, j'ai bien entendu 2022, et ouais, je trouve que c'est... Ouais, non.
Avec, peut-être les deux co-commissaires de l'exposition, Laurent Manoni, qui est le directeur des collections, entre autres, de la Cinémathèque, et également... Vincent Boisferlier, qui est responsable au musée de la Marine, des collections et de la.
Allez, si. D'accord. La toute dernière question pour finir, puisque là, Il y a un décalage qui est lié à la pandémie. Promis, c'est la dernière question. Logiquement, on a fêté le 21 janvier 2021, le 100e anniversaire du film Le Kid. Mais là, on a le Chaplin's World qui vient de rouvrir vendredi et qui fête les 80 ans du dictateur. Pour toi, le dictateur, c'est aussi, comment dire, une institution cinématographique?
Quand on connaît l'histoire de ce film, que je connais comme un stade, voilà, c'est quand même. Voilà, faire ce film à l'époque où il a été fait.
1942.
Voilà, en pleine guerre, je crois que ça a eu une scène aussi. Voilà, bien sûr que c'est un film mythique, mais autour de ça, voilà, c'est toute l'œuvre de Charlie Chaplin et de ses grands comédiens et comédiennes qui ont continué à faire vivre le cinéma, parce que qu'est-ce que serait devenu le cinéma si on n'avait plus de grands metteurs en scène, de grands comédiens,
Très juste.
Ils sont les enfants de Louis Lumière, et aujourd'hui encore, si le cinéma a une telle industrie, c'est peut-être parce que les gens de table sont derrière. Je pense.
Merci. Je tiens à nous excuser, entre guillemets, Marc et moi, pour les quelques coupures. Vous savez que c'est une question de principe sur Direct en Jeu, on ne coupe rien. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être se dire « Ouais, mais c'est pas juste, mais attendez, heureusement on arrive à entendre, je vais quand même réécouter, mais heureusement on arrive à très bien entendre ce qu'il dit. Merci d'avoir donné ces minutes qui sont très riches. Merci à toi. »